J'aimerais commencer ce matin, non pas en lisant un passage des Écritures comme on a l'habitude de faire, on y arrivera dans un instant, mais voilà, j'aimerais stimuler votre réflexion. Et dimanche matin, voilà, il est un peu après 11h, on est en vacances, c'est peut-être pas la première chose qu'on veut faire, réfléchir. Et pourtant, Dieu veut que nous soyons des gens qui réfléchissent. Dieu nous a donné une intelligence, peut-être un peu plus à certains que d'autres, mais il nous a donné tous une intelligence. Et il veut qu'on se serve de cette intelligence au jour le jour. Et ça comprend le dimanche, et le dimanche, lorsqu'on vient à l'église, on entend la parole, il ne faudrait pas que ça entre dans une oreille et que ça en sorte par l'autre, mais au contraire que cela nous fasse réfléchir et que cette réflexion nous emmène à changer, bien sûr. Alors voici la réflexion. Est-ce que ceci vous est déjà arrivé de penser, de dire « Ah, j'ai cédé à la tentation, je sais que c'est pas bien, je n'aurais pas dû, mais je ne pouvais pas faire autrement. » Ça vous est déjà arrivé de faire cette réflexion ? Face à la tentation, ou même après une tentation, on y pense et on dit « Ah, j'aurais pas dû. » Peut-être même cette tentation m'a emmené au péché. J'aurais pas dû, mais bon, je ne pouvais pas faire autrement. J'étais face à cette tentation et c'était trop fort que moi. C'était plus fort et je ne pouvais pas, j'ai cédé. Et donc là, on est un peu déçu. On est déçu de soi. On se dit, ah, mais je suis enfant de Dieu. Si j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, j'aurais dû agir autrement et... Voilà, maintenant, de nouveau, je suis tombé et voilà, qu'est-ce que Dieu doit penser de moi ? Qu'est-ce que les autres devraient penser de moi si jamais ils apprenaient ? Et avec ce genre de réflexion, on peut être emmené à croire, finalement, qu'il n'y a pas de sortie. Qu'on est voué un peu à cet échec, ce cycle vicieux qu'on voit chez les Israélites dans l'Ancien Testament. Vous savez, l'époque des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et Dieu bénissait, le peuple avançait, le peuple tombait dans le péché, le peuple était opprimé, et puis Dieu, il crie à Dieu, il se repente, et là Dieu les délivre, et ainsi de suite, ce cycle qui est là. Et vous, et moi aussi, parfois, on peut avoir cette réflexion, ben, je suis dans ce cycle et j'arrive pas à m'en sortir, là c'est trop fort. C'est plus fort que moi, je n'arrive pas, je sais que c'est pas bien de céder à la tentation, mais je n'y parviens pas à résister. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer votre pensée, vos regards dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Parce que Paul, il traite de cela, il traite justement de la tentation, avec un verset qui est souvent utilisé pour parler des épreuves. Et pourtant, il faut toujours se souvenir que la question qui est traitée ici, ce n'est pas la question des épreuves, mais bien celle des tentations. La première épître aux Corinthiens, chapitre 10, et c'est le verset 13 qui va nous intéresser, même si on verra tout ce passage. Mais surtout le verset 13, vous connaissez certainement ce verset, pourrez peut-être pour quelques-uns même citer au moins en partie, sinon en totalité. Si vous y êtes, suivez avec moi, 1er épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais... avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Voilà, un verset bien connu qui, comme j'ai dit, parfois est utilisé pour parler des épreuves. Comme quoi, bah, Dieu ne permet jamais d'épreuves dans notre vie qu'on ne peut pas supporter. Dieu nous aidera à nous en sortir. Finalement, on voit bien, ce verset, il traite de la tentation et pas forcément de l'épreuve. Bon, Dieu est avec nous dans l'épreuve, ça, il est tout à fait vrai, mais ce verset, il s'applique particulièrement et directement à la tentation. Et à travers ce passage, on commence avec le verset 1, et nous allons lire le passage dans un instant, mais Paul va expliquer à ces chrétiens, qui étaient loin d'être des meilleurs, lorsqu'on connaît les problèmes de l'église de Corinthe, la débauche, un frère, quelqu'un qui se disait chrétien, qui avait pris sa mère, probablement sa belle-mère, comme sa propre femme, et ça ne semblait pas déranger l'église. On se dit, mais on va où là? Et plein d'autres problèmes en ce qui concerne les charismes, des dons et tout, plein de problèmes dans l'église de Corinthe. Et ici, Paul cherche à aider ces chrétiens qui étaient dans la difficulté, et il veut les rassurer que la réussite face à la tentation est toujours. Et si dans votre esprit, vous pouvez souligner ce mot « toujours », toujours possible. Si nous revenons sur le verset 13, aucune. Alors, cette exclusive-là, n'est-ce pas? Selon l'apôtre Paul, est-ce qu'il y a une tentation qui est survenue, qui n'était pas humaine? Non. Ici, Paul dit « aucune tentation ». Ce qui doit faire que dans ma réflexion, je ne peux jamais me permettre de dire ma situation, elle est trop difficile. Ma situation, elle est particulière. Paul n'avait pas ma situation à l'esprit. Aujourd'hui, 21e siècle, on est tellement avancé, on fait face à des tentations que Paul, il n'aurait jamais même pu imaginer. Et pourtant, il dit, inspiré par Dieu, aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Alors, qu'est-ce qui permet à Paul de dire cela? Parce qu'effectivement, des tentations, elles sont diverses. Elles peuvent venir de tous les côtés, de l'extérieur. Le monde nous tente, n'est-ce pas? À travers les pubs. Et on en a marre, n'est-ce pas? Vous voyez la boîte aux lettres remplie de pubs, vos boîtes mail remplies de ce qu'on appelle spam, des courriers indésirables. Les gens qui essaient de vous vendre à droite et à gauche, des appels téléphoniques et tout. Donc, on est tenté. Donc, de l'extérieur, ça arrive. Des tentations pourraient venir de frères et sœurs ou de personnes qui se disent frères et sœurs. Un frère ou sœur qui ne marche pas selon Dieu et qui, finalement, voudrait nous entraîner peut-être dans une mauvaise direction. Ça, c'est une tentation. Et puis, bien sûr, une des plus grandes tentations, la tentation qui vient de l'intérieur. Même en tant que chrétiens, nous avons le péché qui est encore en nous. Et nous sommes tentés, selon Jacques, lorsque nous sommes attirés par le désir et que nous allons vers le péché. Donc, les tentations sont tout autour de nous, nous attaque dès notre lever jusqu'à notre coucher. Des tentations visuelles, des tentations de la pensée, des tentations physiques. Et Paul ici dit, mais soyez rassurés, frères et sœurs. Oui, le combat est là. Le combat, il est rude. Le combat, il est difficile. Mais la victoire est assurée. Aucune tentation. Alors, pensez à la pire tentation que vous pourrez imaginer. La plus grande. Et à côté de cela, vous pouvez dire, mais cette tentation, j'ai la possibilité de la surmonter. Et de la surmonter à chaque fois. Pas juste une seule fois, pas juste deux, mais à chaque fois. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue, qui n'était humaine. On n'est pas un cas d'exception, non. On rentre dans la normale. Mais comment? Qu'est-ce qui permet à Paul de s'exprimer ainsi? Parce que la réalité de notre vie, vous, tout comme moi, j'imagine, c'est que la tentation, on y cède. N'est-ce pas? C'est ça la réalité. On cède à la tentation. On n'est pas parfait. On le sait. Alors, qu'est-ce qui permet à Paul, qui lui-même avait ses propres luttes? Il disait, j'ai des désirs, je veux faire des choses que je sais je ne dois pas faire. Je ne veux pas faire les choses que je dois faire. Il va en parler dans Romains. Alors, Paul connaissait cette lutte. Alors, qu'est-ce qui lui permet de dire la tentation, finalement, elle est normale et on peut même avoir la victoire? Ce sont les deux mots qui suivent. mais Dieu. Mais Dieu. Dieu est là. Et finalement, c'est Dieu qui contrôle les circonstances. Et Dieu connaît la tentation à laquelle moi je suis confronté, tout comme vous. On n'arrive jamais devant une tentation où Dieu, où Dieu se dit « Ah, je ne m'attendais pas à ce que tu sois confronté à telle tentation. » Même, tenez-vous bien, mes propres erreurs, où moi je me mets dans la galère tout seul, et là je me retrouve devant une tentation, Dieu savait très bien que j'y serais. Et du coup, parce que Dieu est là, et parce que Dieu est tout puissant, et sa puissance est à ma disposition, à ce moment-là, la tentation à laquelle moi je suis confronté, par la puissance de Dieu, je peux la surmonter. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu. Ou bien, on peut traduire le « et » par « mais », parce que c'est quand même un contraste là. Mais Dieu. Dieu, il change tout. Et nous le savons théoriquement, mais j'aimerais vous encourager, déjà cet après-midi, parce que cet après-midi, vous serez confronté à des tentations. Je ne veux pas vous décourager, mais c'est la réalité de la chose. Vous serez confronté à des tentations. Et devant la tentation, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes tenté, et là, définissons un peu la tentation, c'est lorsqu'on est attiré à faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Okay? Et lorsqu'on est attiré à faire ça, lorsqu'on est face à cette tentation, j'aimerais vous encourager à avoir cette réflexion. Dieu peut m'aider à surmonter cette tentation. Pensez à Dieu. Et vous allez voir, ce n'est pas une formule magique, mais c'est Dieu qui le fait. Dieu apporte son aide à ce moment-là. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Et puis, Paul explique dans ce verset que Dieu est fidèle. Et qu'est-ce qui permet à Paul de dire que Dieu est fidèle ? Eh bien, pour cela, il faut remonter jusqu'au verset 1. Alors, allez avec moi, verset 1. Paul va faire une petite historique. Il va dire au verset 1, « Frères, » donc il parle bien à ses frères et sœurs en Christ, « Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Ce que Paul explique ici, c'est, il dit, je peux remonter jusqu'à Moïse, je peux remonter jusqu'à la loi que Dieu donne sur le mont Sinaï, je peux remonter jusqu'à la sortie d'Égypte, et voir que Dieu prenait soin de son peuple à ce moment-là. Et ce même Dieu, dit Paul, qui s'occupait de nos pères, et là, pour le peuple juif, quand on évoquait Moïse, quand on évoquait l'Alliance, quand on évoquait la sortie d'Égypte, la manne et tout ça, c'était la puissance de Dieu qui s'était manifestée. Et Paul dit, ce même Dieu qui a fait toutes ces choses, à la vieille bonne époque où tout était formidable, alors que finalement ce n'était rien de cela. Mais ce même Dieu qui agissait là, c'est le même Dieu qui agit aujourd'hui, dit Paul. C'est le Dieu fidèle. Il a fait pour nos pères, nos ancêtres, et il le fait pour nous aujourd'hui. Nos ancêtres n'étaient pas meilleurs. D'ailleurs, regardez verset 5. Malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, la plupart d'entre eux ne furent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Donc, les ancêtres n'étaient pas meilleurs que les gens de l'époque de Paul. Et nos ancêtres à nous ne sont pas forcément meilleurs que nous. Et si Dieu a agi pour eux, ce même Dieu qui ne change pas, ce même Dieu puissant, ce même Dieu fidèle, il agit pour nous également. Et ça, à chaque instant. Donc, qu'est-ce qui nous permet de surmonter la tentation ? C'est parce que Dieu, ce Dieu fidèle, ce Dieu qui ne change pas, est là et il agit. Et le simple fait d'y penser lorsque nous sommes face à n'importe quelle tentation va nous aider à surmonter cette tentation. Mais Paul ne s'arrête pas là, puisque au verset 6 et de nouveau au verset 11, Paul va soulever quelque chose en disant verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Et verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Paul dit, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, même ce que Dieu a fait dans le passé, n'est pas simplement de l'histoire. Quelques données avec lesquelles on peut remplir sa tête pour dire, voilà, regardez toute la connaissance que moi j'ai. Non, ça doit avoir un impact sur nous aujourd'hui, dans le sens, ils ont échoué. Pour certains, ils ont réussi. De grands exemples comme David, comme d'autres. Mais voilà, ces choses leur sont arrivées. Dieu s'est manifesté. Et maintenant, ce même Dieu, il est là aujourd'hui. Et je peux retirer des leçons du passé. Il y a cette grande phrase qui n'est pas biblique, mais qui est tout à fait juste. Ceux qui n'apprennent pas de l'histoire sont voués à la répéter. Donc, l'histoire est là pour nous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs. On n'est pas voué à faire les mêmes erreurs de ceux qui nous ont précédés. Non, nous pouvons agir différemment. Nous ne sommes pas voués à cet échec. Et Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, ici, leur dit, vous avez la possibilité d'apprendre ces leçons. Alors, certaines leçons, il est vrai, il faut qu'on les apprenne nous-mêmes, dans le sens, parfois, on est obligé de passer par telle ou telle circonstance. Mais si on peut éviter ces échecs, si on peut éviter ces circonstances, tout en apprenant la leçon, oui, il faut. Et Dieu nous donne tout l'Ancien Testament pour nous montrer qu'il est là, qu'il agit, mais aussi de tous les travers de son peuple pour dire, faites attention, n'agissez pas comme eux. Ne soyez pas infidèles. N'ayons pas de mauvais désirs, comme au verset 6, nous voyons Paul le dire. Et puis verset 7, Paul va évoquer quelque chose qui peut nous sembler un peu étrange, mais il dit au verset 7, « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Alors, il est question du veau d'or, ici. Vous connaissez sûrement l'histoire. Et Paul dit, cette histoire-là a été conservée pour nous aujourd'hui pour nous mettre en garde, pour dire, on a beau entendre la voix de Dieu, on a beau recevoir son instruction, si on ne fait pas attention, on peut tomber dans l'idolâtrie, on peut céder à la tentation. On n'est pas à l'abri. Et d'apprendre cette leçon de ne pas devenir idolâtre. Et on peut se réconforter un peu en disant, mais moi, je n'ai pas de statue chez moi. Hein. Moi, je n'ai pas d'idole, je n'ai rien en pierre, en bois. Mais les idoles, vous le savez très bien, ce n'est pas forcément des objets, bien que ça peut être des objets. Mais une idole, dans le sens biblique du terme, c'est tout ce qu'on place avant Dieu. Et pour vous aider dans cette réflexion, lorsque vous vous levez le matin, quelle est la première pensée qui vous vient dans l'esprit? La première pensée qui me vient à l'esprit, c'est « Ah, qu'est-ce que j'aimerais 10 minutes de plus ?» Mais bon, voilà. Oui, oui. Allez, une demi-heure, une heure. Bon. Mais la première pensée, à quoi est-ce qu'on pense le matin quand on se lève? Voilà, café. Et la première chose à laquelle on pense, ça montre ce à quoi on est attaché, pour le bien, pour le mal. Et lorsque notre pensée ne va pas tout de suite vers Dieu, là il y a un problème. Et puis de l'autre côté, Ben, la dernière chose qu'on fait avant d'aller au lit. Ben, aujourd'hui, on parle beaucoup de la nuit, éteindre les écrans, de ne pas passer trop de temps. On se soucie pas mal des jeunes, des enfants à ce niveau-là. Mais même pour les adultes, apparemment, selon certaines statistiques, c'est extrêmement grave. Les gens, ils vont rester voilà, très très longtemps. Et pour être honnête, ça m'est arrivé plus d'une fois. Voilà, on est devant l'écran et puis voilà, pour X raisons. Et là, tout de suite après, ben, on va au lit. Mais ne serait-il pas mieux de terminer sa journée, tout comme on la commence, avec Dieu? Et combien il est beau, par moment, on n'arrive pas à s'endormir, on prend la Bible. Ou on commence à prier, tout simplement. Et là, on s'endort en priant. Ou on s'endort avec la Bible. Parce qu'on accorde de l'importance à Dieu et à sa parole. Et à ce moment-là, nous mettons Dieu à la première place et nous avons la possibilité de surmonter des tentations. Puisque lorsque notre esprit est imprégné de Dieu et de sa parole, il n'y aura pas la place pour tous ces autres désirs. Et Satan et ce monde aura beau nous tenter avec tout ce qu'ils veulent, comme nous sommes tellement ancrés dans la parole, dans notre relation avec Dieu, ce que le monde et ce que Satan propose, finalement, ce sont des miettes à côté du repas. Je vais employer un mot, ne soyez pas choqués. Le repas gourmand de la parole. Lorsque nous sommes imprégnés de la parole, ce que Satan et le monde proposent, c'est comme des miettes. Qui veut des miettes lorsque, à côté, on a un énorme repas où on peut manger jusqu'à sa faim? Et Paul veut encourager les chrétiens ici en disant la réussite, la victoire face à la tentation est possible. Nous ne sommes pas voués à l'échec, peu importe la tentation. Et on peut dire, oui, mais vous ne connaissez pas mes collègues de travail. Et là, on est en vacances, on n'a pas besoin de les voir. Ouh, on souffle un peu. Ah ben, vous ne connaissez pas ma famille. Peut-être bien. J'avais deux frères, et puis voilà, on se prenait la tête assez souvent. Vous ne connaissez pas mes parents, vous ne connaissez pas mes enfants, mais qu'est-ce qu'ils méritent, mes enfants? Vous ne dites pas, vous ne dites pas ça, j'espère, non. Vous ne connaissez pas les frères et sœurs de l'Église? Ah, mais comment ils peuvent m'agacer parfois, vous savez? Vous ne connaissez pas ma situation, et pourtant Dieu la connaît. Et Dieu, c'est Dieu lui-même qui le dit, c'est pas moi. Si Dieu ne le disait pas, moi je ne le dirais pas. Je ne me permettrais pas. Mais c'est Dieu qui dit la réussite est possible. Parce que Dieu, il est fidèle. Parce qu'il nous a donné des exemples dans le passé. Mais aussi, regardez, on revient au verset 13. Dieu qui est fidèle. Et regardez la certitude de la phrase suivante. Ne permettra. Alors, quand Dieu dit « telle chose n'arrivera pas », est-ce qu'il y a la possibilité qu'elle arrive? Non. Le Dieu qui dit « la mer, elle arrive jusque-là, elle ne va pas au-delà ». C'est le même Dieu qui dit « la tentation, je la permets d'aller jusque-là, mais pas au-delà ». Alors, est-ce que la tentation peut aller au-delà? En aucun cas. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Est-ce qu'on croit cela? Satan voudrait qu'on remette ça en doute. Satan voudrait nous faire dire, « Ouais, mais t'as tellement échoué dans le passé que tu es peut-être le cas d'exception et que tes tentations, Dieu, quelque part, il ne gère pas. Que Dieu est tellement occupé avec toutes les tentations de toutes les autres personnes sur la planète que finalement, toi, il n'a pas trop de temps pour toi. » Ça, ce sont des réflexions qui viennent de Satan. Ce n'est pas la Bible, ça. La Bible dit « Aucune tentation n'est survenue qui n'était humaine. Et Dieu ne permettra en aucun cas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. » Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de cette vérité? Est-ce que nous saisissons cette vérité? Est-ce que nous vivons en conséquence? Est-ce que devant chaque tentation, nous disons, bah, Dieu contrôle cette tentation. Et parce que Dieu la contrôle, je peux avoir la victoire. Donc Dieu est actif, et il est actif aujourd'hui. Ce n'est pas simplement qu'il a agi dans le passé. Et il nous donne quelques exemples, quelques restes du passé pour dire, bah, soyez encouragés avec cela, mais aujourd'hui je ne fais plus grand-chose. Non, non, Dieu est tout aussi à l'œuvre aujourd'hui qu'il était dans le passé. Et Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ce qui fait qu'il va permettre une tentation dans la vie de quelqu'un d'autre, qu'il ne nous permettra pas dans notre vie. Parce qu'il sait que cette autre personne peut la supporter, mais que nous, on ne peut pas. Et il permettra une tentation dans notre vie qui ne permettra pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que là aussi, il sait que nous pouvons la supporter et que cette autre personne ne peut pas. Dieu contrôle toute tentation dans notre vie. Encore une fois, même lorsque nous faisons de mauvais choix, même lorsque nous nous mettons nous-mêmes dans des situations difficiles, cela ne sort pas du contrôle de Dieu. Et puis, bien plus que cela, Dieu dit, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. La tentation, nous pouvons l'éviter. Et que ce soit clair, la tentation en soi n'est pas un péché. Pour rappel, si vous l'avez déjà entendu, pour que vous soyez convaincu, si vous ne le saviez pas, la tentation en soi n'est pas un péché. Parce que Jésus a été tenté. Okay? Et Jésus n'a jamais péché. Donc, la tentation n'est pas un péché. Mais la tentation peut conduire au péché. Et voilà ce que Dieu veut nous éviter. Et donc, la tentation, parce que Dieu la permet jusqu'à un certain point, et en plus de cela, il agit en nous pour préparer un moyen d'en sortir. De sortir de en dessous, c'est l'idée. Comme la tentation peut être imagée comme un poids écrasant qui est là, on a du mal à tenir en dessous, les épaules ne sont pas assez larges, et puis là, Dieu prépare une façon, une manière de s'en sortir. C'est Dieu qui fait ça. Et il le fait pour chacun de nous. Il ne fait pas juste pour le monde en général, pour tous ses enfants. Non, mais c'est pour moi, Robert. C'est pour vous, vous mettez votre prénom. Dieu prépare individuellement le moyen de sortir de n'importe quelle tentation. Alors, cet après-midi, encore une fois, quand vous serez confronté à la tentation, et vous y serez, préparez-vous. Sachez, souvenez-vous, que Dieu a préparé le moyen de s'en sortir. Ça va être particulier à la circonstance, et on ne sait pas toujours à l'avance comment Dieu le fera. Mais Dieu nous promet, le Dieu qui ne peut pas mentir, Dieu nous promet de donner un moyen de sortir de la tentation. Et quel est le but? Ben, afin que vous puissiez la supporter. Et là, ce n'est pas juste survivre, c'est avoir la victoire. C'est de pouvoir dire, bah, je suis victorieux par Dieu. Et quand Paul écrit ceci à des chrétiens qui avaient tant échoué, dans l'église de Corinthe, beaucoup d'échecs, peu de progrès spirituel. Il leur écrit ces quelques mots et il leur dit, mais soyez encouragés. La victoire, elle est possible. C'était possible pour nos ancêtres dans le passé. Ce sera possible dans l'avenir lorsque nous serons glorifiés. Et qu'est-ce que nous attendons ce moment avec joie? Plus de péché, plus de mal, plus de tristesse, plus de maladie. Mais nous n'y sommes pas encore. Et en attendant, Dieu promet par sa puissance de nous délivrer de la tentation à condition qu'on s'appuie sur lui. Si on essaie d'y faire avec notre propre force, on va échouer. Mais avec la force de Dieu, là, il y a la réussite. Toujours, sans exception. Et puis, après avoir évoqué cette idée de tentation et avoir encouragé les chrétiens, parce que la victoire dans la tentation est possible, verset 14. Il va revenir sur cette idée de idolâtrie. C'est pourquoi, quoi? Les 13 premiers versets. Parce que Dieu a agi dans le passé. Parce que nous avons l'exemple des ancêtres avec lesquels Dieu a traité. Parce que Dieu s'est révélé. Parce que Dieu garde de la tentation. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est puissant. Parce que nous pouvons avoir la victoire. Paul dit, à cause de tout cela, mes bien-aimés, et là, un ordre, commandement, fuyez l'idolâtrie. Et là, on se dit, mais ok, très bien. Mais encore une fois, j'ai pas d'idole chez moi. J'ai pas de statue. Moi, je vis plus ou moins pour Dieu. Et voilà, fuyez l'idolâtrie, ça peut s'appliquer peut-être à d'autres, mais bon, ok, moi, je pense à un tel ou tel qui est peut-être pas tout à fait en règle avec Dieu et tout. Et pourtant, ce verset, il est là pour nous tous. Fuyez l'idolâtrie. Et cela montre que lorsque nous sommes confrontés à la tentation, il y a cette possibilité de tomber dans l'idolâtrie, c'est-à-dire placer quelque chose au-dessus de Dieu. Et bien sûr, à ce moment-là, nous allons tomber. Nous allons céder à la tentation. C'est presque inévitable. Et Paul dit ici, voilà, notre devoir, c'est de fuir l'idolâtrie. Et là, vous voyez ce mouvement actif. On s'éloigne, on se préserve. On ne se met pas dans des situations où on pourrait être emmené à être attiré par quelque chose qui serait placé au-dessus de Dieu. Il y a de l'activité de notre côté. Bien sûr, Dieu préserve. Dieu ne permet pas la tentation d'aller au-delà de notre force. Mais en même temps, ne tentons pas Dieu. Non, on ne peut pas. Nous devons nous préserver. Et Dieu fait toujours de son côté son travail de préservation et de soutien pour nous. Mais est-ce que nous faisons toujours ce qu'il faut de notre côté? Non. Et voilà pourquoi nous tombons. Et ici, Paul montre par ce verset qu'il est le devoir de chaque chrétien, sur la base de tout ce que Dieu lui, il fait, de se préserver. D'ailleurs, il va le dire, préservez-vous des souillures du monde. Et voilà pourquoi un enfant de Dieu ne se permet pas d'aller dans tel ou tel endroit. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne se permet pas de fréquenter telle ou telle personne. Ça peut impliquer de couper les liens avec des personnes qui vont nous induire dans l'erreur, qui vont nous éloigner de Dieu, qui vont nous freiner dans notre marche avec Dieu. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu ne se permet pas d'écouter tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi nous devons être vigilants sur ce que nous regardons. Voilà pourquoi nous devons être vigilants sur ce que nous lisons. Vous allez sur Internet, vous le savez sûrement, on trouve de tout et n'importe quoi. Hein? On pourrait passer beaucoup de temps à raconter toutes les bêtises qu'on pourrait trouver sur Internet. Et à ce moment-là, si vous allez sur Internet, vous allez vous renseigner, notamment en ce qui concerne les choses bibliques, faites le tri. Éloignez-vous de tout ce qui n'est pas biblique. Parce que ici, Paul dit, il faut se préserver. On va fuir tout ce qui pourrait se mettre à la place de Dieu. Voilà sa prière pour les Corinthiens. Et encore une fois, cela est possible. Sinon, il ne l'aurait jamais dit. Il est possible, cette victoire, cette vie spirituelle avec Dieu, cette réussite est possible. Et c'est possible pour moi. Je ne suis pas un cas d'exception. Je ne suis pas le cas le plus difficile où Dieu dit « Ah, tous les autres cas, ça va aller, mais ton cas à toi, ah bah, je suis désolé, là, j'y peux rien. Débrouille-toi, mais voilà, moi, je suis au bout de mes forces. » Non ! Dieu, il est le grand Dieu. Et il a déjà préparé le moyen pour nous aider dans la tentation. Sa volonté, c'est qu'on réussisse. Et il a tout fait pour qu'on réussisse. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons ? Prenons le temps, je vous encourage encore une fois, devant la tentation. Déjà, essayez d'identifier quand il y a la tentation. C'est déjà une première étape. Et devant la tentation, de vous poser la question, qu'est-ce que je dois faire ? Dieu, j'ai besoin de toi. Je n'y arrive pas par moi-même, mais tu promets ta force. Et à ce moment-là, gloire à Dieu, il va le faire. Il va nous aider, c'est sûr et certain, pas de doute. L'aide des hommes, on peut s'en douter parfois. Mais l'aide de Dieu, jamais. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une tentation dans votre vie et vous n'avez pas l'impression d'avoir la victoire dessus ? Permettez-moi de vous dire, Dieu veut la réussite pour vous. Vous allez être confronté à des tentations. Dieu les permet. Mais avec ces tentations, il permet, il prépare le moyen de s'en sortir. Attachons-nous, restons accrochés à cette vérité. Mettons de côté les mensonges de Satan qui dit eh « ben, c'est comme ça et ça ne changera jamais ». L'échec, on n'y peut rien, on n'est que humain, alors voilà. Non. Dieu veut tellement plus pour nous aujourd'hui. Sommes-nous prêts à saisir cette vérité ? Je prie que oui. Nous avons un choix à faire aujourd'hui, en cet instant, et puis à chaque fois que nous sommes confrontés à la tentation. Souvenez-vous de ce choix et demandons à Dieu sa puissance pour pouvoir faire le bon choix. Alors c'est ce que nous allons faire dans la prière. On va passer quelques instants dans le silence pour demander l'aide de Dieu et ensuite je prierai. Oui Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse et nos échecs, nos mauvais choix. Nous reconnaissons aussi que ta puissance est là et nous demandons ton aide devant chaque tentation de pouvoir avoir la victoire, de pouvoir supporter, de faire les bons choix. Nous savons que c'est ce que tu veux pour nous. Et nous te remettons déjà le reste de cette journée. Tu le connais, Seigneur. Cette semaine, devant nous, tu sais ce à quoi nous serons confrontés. À chaque instant que tu nous fortifies par ta puissance, que tu nous aides à nous souvenir de ces vérités, que tu nous aides à agir en conséquence. Tu es le grand Dieu et que tu puisses être exalté à travers la victoire, la réussite que les gens voient en nous, que toute la gloire te revienne pour cette œuvre magnifique que tu as commencée en nous, si nous te connaissons par la foi. Et que tu vas parfaire jusqu'à ton retour. C'est en ton nom que nous prions. Amen.